Du lundi au vendredi, toute l'actu des réseaux.
Résumé de l'épisode précédent. En 1984, Tetris est inventé par Alexei Pajitnov, un ingénieur rêveur qui s'ennuie un peu dans la Russie soviétique. En quelques semaines, le jeu devient si addictif qu'il est commercialisé en Hongrie et en Pologne. Deux ans plus tard, Robert Stein, un homme d'affaires anglais, tombe dessus et décide d'en acheter les droits pour les commercialiser en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Mais arrive un nouveau personnage, Nintendo, qui veut obtenir les droits du jeu pour leur nouvelle console. Pour leur nouvelle console portable qui va bientôt sortir, la Game Boy. Tetris est une bataille et un bordel sans nom. Arnaque, crime et putaclic, Tetris, la guerre froide du jeu vidéo, épisode 2.
Nous sommes en janvier 1988, au CES de Las Vegas, une convention high-tech où sont présentées les nouveautés du monde de l'électronique. Entre les consoles Sega, les ordinateurs Atari et des nouveaux modèles de Walkman magnétophone, il y a le stand de l'éditeur de jeux américain Holobyte qui présente Tetris, le premier jeu soviétique.
Pas de vaisseaux spatiaux, pas d'effets spéciaux, pas d'explosions, non. Juste des cubes qui tombent et une musique d'inspiration russe. Pourtant, la file d'attente est interminable. Tetris intrigue. Dans la file des joueurs, il y a un homme en costard-cravate qui poireaute pour tenter sa chance pour la cinquième fois d'affilée. Son nom, Hank Rogers, l'homme qui va changer l'histoire du jeu.
Hank Rogers est un citoyen du monde. Naissance aux Pays-Bas, il a grandi aux États-Unis où il est tombé amoureux d'une japonaise à la fac. Et il vit maintenant au pays du soleil levant. Au Japon, il monte sa boîte de jeux vidéo Bulletproof Software à qui l'on doit The Black Onyx, succès retentissant au Japon. Et quand Nintendo sort sa console en 1985, Rogers veut absolument bosser avec eux.
Il demande un rendez-vous avec le boss de Nintendo. Un gars dur en affaires, mais Hank Rogers a plus d'un tour dans son sac. Il propose de développer la version console du jeu de Go, un jeu de stratégie avec des pions noirs et blancs. Visuellement, ça ressemble un petit peu aux dames, mais en plus grand. Et ça tombe bien, le patron de Nintendo est un fan absolu du jeu de Go. Et il offre 300 000 dollars d'avance à Rogers pour développer le projet.
Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement.
Quelques temps plus tard, à Las Vegas, lorsque Hank découvre Tetris, il a un déclic. De la stratégie, des formes géométriques, pas de texte trop long à traduire en japonais. Et si en fait, c'était ça le jeu qu'il lui fallait pour Nintendo? Il va directement voir Gilman Louis, le patron de Holobyte qui est présent lors du salon. Et il lui propose d'acheter les droits de Tetris pour les consoles. Louis est ouvert à la discussion, mais pour conclure un deal, il doit en parler à son partenaire anglais. Ce sont eux qui ont négocié l'achat de licence de Tetris avec l'État russe. Mais logiquement, ça devrait se faire.
Sauf qu'en fait, non, ça peut pas se faire. Les Anglais ont déjà cédé la licence Tetris pour les consoles, sans en parler à personne. Maintenant, c'est Atari qui les détient. Hank Rogers est prêt à tout. Il s'en fout du temps que ça prendra, il lui faut absolument ses droits. Il va sur le parking du siège d'Atari aux États-Unis et attend des heures dans sa bagnole que le big boss de la boîte ne sorte. Un soir, il le coince. Et là, il lui déroule son pitch de commercial. Il lui faut la version console de Tetris. On lui répond non. Alors, il propose un plan B. Il veut toujours les droits, mais uniquement pour le Japon. Et il met les 300 000 dollars de Nintendo sur la table. Affaire conclue, Hank Rogers rentre à Tokyo avec Tetris et le sourire aux lèvres.
Ça va péter ! Péter !
Le jeu bat des records de vente au Japon. Si on a une NES, on a Tetris. Rogers a réussi son coup. Il devient riche. Et quand il apprend que Nintendo s'apprête à lancer une console portable appelée Game Boy et que la marque japonaise se demande quel jeu doit être inclus dans la boîte, il saisit la balle au bon. Il explique sa logique. Si la Game Boy est commercialisée avec Super Mario, c'est un jouet pour les garçons. Si c'est Tetris, c'est un jouet pour tout le monde.
Hank Rogers est missionné pour récupérer les droits d'édition de Tetris pour les consoles portables. Bah oui, c'est lui qui a négocié pour le Japon. Il sait qu'il faut aller voir directement Robert Stein, ce drôle de bonhomme anglais là qui a acheté Tetris aux Russes avant de le revendre 12 000 fois à des studios en Occident. Pas question cette fois que Rogers aille camper dans des parkings. Il appelle Robert Stein qui lui dit « D'accord, je vais d'abord en parler aux Soviétiques ». C'est bizarre ça. Pourquoi demander aux Russes s'il leur a déjà acheté le jeu? Il est pas clair ce Stein. Si ça se trouve, personne n'a les droits. La seule solution, c'est d'aller en Russie pour négocier directement avec eux.
Et pour ça, il va falloir convaincre l'organe du ministère de l'économie soviétique qui s'occupe des hautes technologies, l'agence Elorg, qui a un nouveau patron, Nikolai Belikov, un dur à cuire, ancien des services secrets, fin négociateur qui a obtenu le poste pour justement s'occuper de Tetris. Car pour couronner le tout, plus personne ne paie les Russes pour l'exploitation du jeu. La bataille de Tetris est loin d'être gagnée.
Hank Rogers arrive à Moscou. Il est reçu dans un bureau avec Nikolai Belikov, Alexei Pajitnov, l'inventeur de Tetris, et une interprète qui est ouvertement une agent du KGB. Plus tout un tas d'autres personnes au visage pas du tout accueillant. Belikov lance à Rogers directement. « Monsieur, vous êtes un délinquant. Vous vendez les droits d'un jeu illégalement, il ne vous appartient pas. » Pour les Russes, les droits ont été vendus à Robert Stein, et seulement lui, pour des ordinateurs, et seulement des ordinateurs, pas pour des consoles japonaises. Et il ressort le contrat d'origine.
Hank Rogers demande à le voir, et il est scandalisé. Les Russes se sont fait fourrer comme des dindes de Noël. L'accord signé avec Stein est tout sauf équitable. Il ne touche que 0,1% des ventes. Pendant plusieurs heures, l'Américain explique aux Russes le principe de la vente des droits, et tout ce qui ne va pas dans le contrat. Et il propose une alternative. Signer avec Nintendo. Ils offrent une avance et une somme fixe sur chaque cartouche de Tetris vendue.
Faut que je réfléchisse.
Belikov est séduit et respecte l'honnêteté de Rogers. Il demande une proposition écrite. Rogers lui répond « Vous l'aurez demain, je ne quitterai pas la Russie tant qu'on n'aura pas signé ». Ce que Rogers ne sait pas, c'est que quelques jours plus tard, les Anglais qui ont signé le contrat initial ont aussi rendez-vous chez Elorg avec Belikov. Le patron de l'agence russe va utiliser tous les conseils de Rogers et il va réaliser un coup de maître. Il force les Anglais à payer des pénalités pour leur retard de paiement. Et ensuite, il leur dit « On va signer un nouveau contrat ». Dans lequel il a changé des mots et la définition d'un ordinateur. Résultat, l'éditeur britannique pense avoir récupéré Tetris sous toutes ses formes, alors qu'ils n'ont plus le droit d'exploiter les versions console portable et salon de Tetris.
Ce nouvel accord fait que Nintendo peut tout rafler. Les droits de Tetris sur console dans le monde entier, les sous-licences vendues aux Américains puis revendues ensuite, tout est annulé. Bien sûr, en Angleterre et aux États-Unis, c'est la panique. Comment ils ont pu se faire avoir par des communistes au jeu du capitalisme. Et on veut même que Gorbatchev intervienne. Mais bon, fin 1989, le chef de l'URSS a d'autres problèmes que les briques de Tetris qui tombent sur un écran de console. Le mur de Berlin s'écroule sur tous les écrans de télé du monde. Et à ce jeu-là, il ne peut pas appuyer sur le bouton « Recommencer ».
Depuis près de 35 ans, il s'est vendu plus de 500 millions de jeux. Il s'est vendu plus de 500 millions du jeu Tetris. Et si l'on compte les versions numériques. Et si Nintendo a gagné, tous les éditeurs ont un jour ou l'autre aussi encaissé de l'argent. Le seul pour qui cela a mis du temps, c'est Alexei Pajitnov, l'ingénieur russe, inventeur du jeu. Interdit de monter une entreprise sous la domination soviétique, son destin a changé à la chute de l'URSS. En 91, Hank Rogers l'a aidé à s'installer aux États-Unis et ensemble, ils ont monté une société pour gérer les droits de Tetris. À la fin des années 90, il a enfin pu goûter aux fruits de son invention. C'est ainsi que se termine l'histoire de Tetris, la version 8 bits de la guerre froide, une histoire terriblement compliquée pour le jeu le plus simple du monde.